Écoute voir.
Alors, de l'anxiété sociale, ouais.
Sans boîte de nuit, quand il y a beaucoup de monde.
Quelquefois, ça m'arrive aussi de temps en temps, ça me surprend dans le métro.
Sous silence, les tabous de la santé mentale. Un podcast signé Hugo Savary. Épisode 4, le malaise silencieux.
Être mal à l'aise au restaurant, tétanisé à l'idée de devoir aller à un concert ou même être incapable de sortir de chez soi par peur de la foule dans la rue, souffrir d'anxiété sociale, ce n'est pas facile dans cette société basée originellement sur le contact humain, mais c'est pourtant assez courant comme vous l'avez entendu il y a quelques instants dans ces interviews de la chaîne Alice et moi. Près de 20% des adultes en souffrent au moins une fois au cours de leur vie selon l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Alors l'anxiété sociale, qu'est-ce que c'est? J'en ai parlé avec la docteure en sciences neurologiques des universités de Montréal et de Fribourg, Sherine Fahim.
C'est un trouble psychologique qui est marqué par une peur réelle, intense et persistante des situations sociales où la personne craint d'être jugée, évaluée, humiliée. Et en fait, pour mieux comprendre ce trouble, on a besoin également de comprendre qu'est-ce que l'anxiété ou quels sont les différents troubles anxieux dont l'anxiété sociale en fait partie.
Quelle forme peut prendre cette anxiété sociale? Quelles sont, on va dire, les caractéristiques de cette anxiété sociale?
Les caractéristiques débutent dans le corps. Donc, tout de suite, la personne sent son corps se crisper. Il y a des éléments d'anxiété au niveau du battement cardiaque, au niveau également de la respiration, de la sudation, une peur intense que la personne interprète comme réelle. Et c'est là la différence entre anxiété et peur. La peur est réelle. Par contre, l'anxiété, on peut dire que c'est un peu conjugué au futur, puisque la personne commence à élaborer des scénarios dans sa tête. Et si quelqu'un me juge? Et si je me retrouve dans une situation et je ne peux pas m'échapper? Et si quelqu'un m'humilie en public? Et si quelqu'un me dit que je ne suis pas assez bonne à tel ou tel comportement? Donc c'est toujours orienté vers « et si ».
Comment ça se déclenche chez quelqu'un? Comment ça se fait que tout d'un coup, on ne puisse plus sortir dehors ou je ne sais pas?
Tout commence dès la première fois. Si la première fois, le jeune, l'enfant, l'adolescent, l'adulte même, éprouve une certaine anxiété. Durant ce moment, son cerveau va apprendre comment la personne va réagir. Si la personne, dès la première fois, réagit en calmant le plus rapidement possible son anxiété par l'évitement, c'est là que le problème commence. L'évitement nourrit l'anxiété et l'anxiété se nourrit de l'évitement. Et c'est là que le trouble commence à devenir comme un monstre grandit de plus en plus dans le corps et dans le cerveau. Donc si la première fois, la personne prend un pas de recul et commence à penser pourquoi je me suis sentie ainsi. Comment j'ai réagi la première fois et comment je peux réagir la prochaine fois. Si la personne commence à lier ses pensées, ses émotions, ses sensations corporelles et son comportement, c'est là qu'on peut arriver à résoudre la toute première fois. Par contre, si on continue et que le cerveau enregistre que l'évitement est une récompense immédiate, l'évitement est une récompense facile, donc c'est là que l'évitement devient presque une addiction.
Je trouve le monde très déroutant et confus. J'ai du mal à exprimer mes émotions. J'aimerais mieux vivre dans un endroit plus calme, comme la lune.
Est-ce qu'on peut parler de prédisposition? Est-ce qu'elles sont peut-être câblées différemment? Dans le cerveau, il y a une prédisposition chimique ou autre?
Alors moi, je dirais que câbler, c'est une belle image. Donc c'est vrai qu'en IRM, on peut voir effectivement comment les différentes parties du cerveau commencent à se parler entre elles. Et là, dès la naissance, on a un tempérament, on est pas déterminé, on est prédisposé. Donc il y a une certaine prédisposition, mais ça ne veut absolument pas dire que un tempérament inhibé, peur de la nouveauté, peur de prendre des risques ou un comportement anxieux, c'est-à-dire un tempérament anxieux, va se développer vers un trouble anxieux. Absolument pas. Ça va se développer potentiellement vers un trouble anxieux uniquement si l'environnement n'enseigne pas aux jeunes comment faire face à l'évitement, comment faire face à ces scénarios qui se passent dans la tête, qu'on appelle le ciné, qui va créer une sorte de cinéma dans notre tête. Le ciné, c'est l'acronyme pour C, contrôle faible de la situation, I, imprévisibilité, N, nouveauté, et E, égo menacé. Ça, c'est les critères, les quatre ingrédients de potentiellement stresser, être anxieux devant une situation. Si on apprend petit à petit à se dire qui contrôle la situation, l'imprévisibilité, ça peut amener des belles surprises, la nouveauté, ça nous amène ailleurs, ça nous fait avancer, et l'égo menacé, eh ben, l'opinion des autres reste l'opinion des autres.
Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau concrètement de ces personnes qui ont de l'anxiété sociale ?
En fait, dans le cerveau, on a un ami qui s'appelle Amigo l'amygdale. Mon ami Amigo l'amygdale est toujours là, comme une sonnette d'alarme. Par contre, mon ami Amigo l'amygdale, parfois, n'a pas appris à consonner l'alarme. Donc, même devant certains défis ou menaces, parfois l'amygdale n'arrive pas à différencier et peut considérer, par exemple, certains défis comme une anxiété sociale ou plutôt menace. Quand l'amygdale reçoit l'information d'une autre partie du cerveau, qui est le thalamus, qui est le central téléphonique du cerveau, qui achemine l'information à travers les sens, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est angoissé, ça entre par les sens, les cinq sens au niveau cérébral, ça passe par une console de relais qui est le thalamus, vers l'amygdale, vers le tronc cérébral qui va gérer tonus musculaire, rythme cardiaque et respiration. Si je n'ai pas appris à contrôler ces différentes parties à travers le chef d'orchestre qui est le frontal, qui est juste au-dessus de nos yeux, si cette partie n'a pas appris spécifiquement à réguler l'amygdale, réguler le thalamus et réguler le tronc cérébral, c'est là que malheureusement la sonnette d'alarme, l'amygdale, va prendre le dessus et c'est là, à ce moment-là, que presque tout le cerveau s'éteint et c'est l'amygdale qui continue à sonner l'alarme et on ne peut pas réfléchir correctement.
J'ai de l'anxiété sociale, je ne sais pas si c'est normal, tant pis.
Est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes touchées par la phobie sociale, notamment à cause des réseaux sociaux ? Peut-être on s'enferme de plus en plus dans une bulle. Est-ce qu'il y a de plus en plus de phobiques ?
Malheureusement, oui. Il y a deux lois dans le cerveau qui sont très intéressantes et qui sont en lien avec actuellement les jeunes et les réseaux sociaux, par exemple, qui ne sont pas réels, qui sont virtuels. Dans le cerveau, on a ces deux lois qui nous disent « use it or lose it », donc « tu l'utilises ou tu le perds ». Et la deuxième, c'est « what fires together, wires together », où les neurones qui s'allient ensemble, qui se connectent ensemble pour la vie. C'est un peu problématique si je grandis dans un monde virtuel, dans un réseau virtuel. J'ai des amis, mais c'est virtuel. J'ai des amis, mais je trouve que taper quelques messages, écrire quelques messages, c'est beaucoup plus simple, plus sécurisant et moins angoissant que rencontrer quelqu'un, téléphoner, parler, prendre le bus. Donc c'est là où, si les jeunes commencent à ne plus utiliser leurs compétences sociales, malheureusement, à ce niveau-là, ça serait « use it or lose it ».
Pourquoi c'est une honte d'avoir de la phobie sociale ? Pourquoi c'est peut-être tabou d'avoir peur ou même bêtement de ne pas aller en soirée parce qu'il y a trop de monde, parce qu'il y a trop d'interactions, je ne sais pas. Pourquoi c'est un tabou ?
C'est un tabou parce que c'est contre la biologie cérébrale. Notre cerveau est un cerveau social. L'être humain, durant le développement cérébral, une des premières parties qui mature, c'est le système limbique, le système des émotions. Après, suite à la naissance, on a besoin de s'attacher. Le fait que le cerveau est un cerveau social fait en sorte que si j'ai une phobie sociale, c'est quelque chose qui va à l'encontre, normalement, de ce que le cerveau est fait pour apprendre en société, mémoriser en société, avec des interactions entre le soi et l'autre. Donc c'est là où c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué durant les interactions pour certaines personnes.
Je vous propose de passer sur la dernière partie, la partie un petit peu traitement. Est-ce que c'est possible de guérir de l'anxiété sociale ?
Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Quand on dit trouble, on peut guérir, effectivement, ça dépend quel trouble, hein, donc certainement. L'anxiété, on va toujours rester avec un tempérament anxieux. Par contre, le trouble, on peut guérir. Si la personne est dans une situation extrême, donc c'est là où c'est vrai que pendant un certain temps, on a besoin d'une médication pour pouvoir accéder à la personne et travailler en thérapie. Par contre, avant cela, on doit miser beaucoup plus sur la prévention et la promotion de la santé mentale. On doit également parler aux parents, parler aux jeunes, parler ouvertement de l'anxiété sociale et leur montrer à quel point leur cerveau peut leur jouer des tours. Et que ces personnes peuvent également, à travers le cortex frontal, la partie frontale de notre cerveau, essayer de calmer tout simplement les deux autres parties du cerveau, si on connaît que, tout simplement, en fermant les yeux, on arrive à mieux activer les ondes alpha, qui sont les ondes au niveau cérébral, les ondes qui concernent le calme intérieur, relaxation, pleine conscience, et après, on prend une bonne respiration, et la bonne respiration amène une bonne information à la partie frontale. Ainsi, ce chef d'orchestre peut autoréguler les autres parties du cerveau.
C'est ainsi que se conclut notre série sur les tabous de la santé mentale. Merci de l'avoir suivi, j'espère que vous aurez apprécié. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler et à partager ces podcasts. À bientôt.